Donc maintenant, on arrive à un débat d'ordre un peu politique. Je vais laisser Pierre Brault présenter. Louis Ménager aura des choses à dire et nous devons prendre un choix, faire un choix. Allons-y. Donc, le SRADET, oui.
Donc on va parler, oui, du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Je ne le dirai qu'une fois, évidemment, parce que c'est un peu long. Donc maintenant, tout le monde sait ce qu'est le SRADET. Alors la première question, c'est pourquoi un SRADET ? Eh bien, c'est tout simplement la loi NOTRe de 2015 qui a créé un nouveau schéma de planification en confiant l'élaboration aux régions. Et vous allez voir tout à l'heure que ce schéma regroupe un certain nombre d'autres schémas et est un petit peu particulier par rapport à ce qui existait antérieurement. Que dit la loi ? Bien sûr que le schéma doit respecter les lois, c'est-à-dire les règles générales d'aménagement d'urbanisme à caractère obligatoire, les servitudes, qui doit être compatible avec les SDAG et avec les plans de gestion des risques d'inondation, qui doit prendre en compte les projets d'intérêt général, la gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et les équipements en projet, les activités économiques, les chartes des parcs nationaux, sans oublier les schémas de développement de massifs. Là, vous avez compris qu'il y a une dimension environnementale forte, une dimension urbanistique, et Louis en parlera aussi, très forte. Il se substitue au schéma préexistant et, bien évidemment, il a un caractère normatif et opposable. Alors, en Bretagne, la démarche SRADET, on a commencé à en parler dans le deuxième semestre 2017. Et ça fait donc 2 ans que la région travaille ça dans une démarche assez originale, puisqu'ils étaient obligés de produire un SRADET. Ils ont également engagé en même temps une COP régionale. Alors le SRADET, c'est le schéma, c'est le projet de territoire. Et la COP, c'est une initiative qui est vraiment politique, puisqu'ils ont lancé une démarche participative. Il y a eu beaucoup d'ateliers, de réunions, de consultations. Et en fait, ils ont adroitement tiré parti des travaux de la COP pour tester un peu ce qui était accepté, pas accepté, contesté, pour mettre dans le SRADET. Alors sur la COP, par exemple, là, c'est du volontariat pur. Ils ont demandé, après avoir défini les objectifs qu'on retrouve dans le SRADET, au territoire breton, de s'engager tout à fait librement dans la COP. Au mois de mai 2019, par exemple, on a, Vitré Communauté, pris des engagements. Par exemple, lancer le plan mobilité, ça répondait à un des objectifs de la région. Et on a compulsé un petit peu des choses qu'on faisait et qui rentraient dans les objectifs de la COP. Le SRADET est d'une autre nature. Alors, c'est un projet de territoire, c'est une vision partagée, hein, c'est Bretagne 2040, mais aussi ils identifient des outils, des moyens, c'est-à-dire que dans le SRADET, il y a en quelque sorte des règles, mais aussi des notices, c'est-à-dire qu'on explique sur certains points comment il faut opérer de façon assez détaillée. Là, il y a un schéma qui essaye de synthétiser un peu ce que c'est. Vous voyez, le SRADET, il regroupe un paquet de schémas. Vous aurez le document avec le compte-rendu et tous les sigles sont expliqués à la fin. Je vais vous en faire grâce, mais vous voyez bien qu'il y a un paquet de schémas. SRML, par exemple, c'est mer et littoral, le schéma régional, etc. PBE, plan breton des eaux, enfin bon, voilà, schéma régional, climat, air, énergie, etc., etc. Donc, ils mettent tout ça là-dedans. Ils font un diagnostic, ils en sortent des objectifs régionaux, il y en a 38, on va voir ça tout à l'heure, qui doivent être pris en compte obligatoirement dans les SCOT, les PLUI, les plans de déplacement urbain, ce qu'on appelle chez nous le plan mobilité, les plans climat air énergie et les parcs naturels régionaux. Et puis, ben, pour atteindre les objectifs, il y a une partie dans le SRADET qui fixe des règles. Et là, les SCOT, vos PLU, les PDU, les PCAET et les PNR doivent être impérativement compatibles. Et s'ils n'y sont pas, eh ben, il faudra les mettre compatibles. Alors, dessous, oui, je vous ai mis, il y a obligatoirement prise en compte du schéma régional de biomasse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de schémas éoliens et le schéma régional des carrières. Alors, le SRADET, c'est 250 pages. Ça aussi, on l'a envoyé à toutes les mairies, hein, je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Moi, je m'y suis attelé. Bon, on a une introduction de 12 pages qui est intéressante, un rapport de diagnostic indispensable sur 23 pages, un rapport d'orientation sur 15 pages, le rapport d'objectifs qui détaille les fameux 38 objectifs sur 103 pages. Et quand je dis qu'il détaille, il détaille, puisqu'il renvoie même parfois aux fascicules de règles en disant, ben voilà, pour atteindre l'objectif, vous allez utiliser telle et telle règle et vous allez y être soumis. Et puis le fascicule de règles sur 71 pages. Et là, le document s'arrête quand même. Bon. Les 38 objectifs, parce que politiquement, évidemment, c'était la partie la plus intéressante, même si les règles sont les plus douloureuses après, mais dans la partie objective, qui est leur projet de territoire de la Bretagne en 2040, au niveau régional, vous voyez qu'ils avaient retenu trois grands thèmes, cinq axes, et à partir de ces cinq axes, eh bien, il y a 38 objectifs qui sont répartis, qui sont très très précis. Donc comme je suppose que vous avez lu, je ne vous les détaille pas, parce que là on finirait très tard. Les points positifs. Objectivement, le SRADET a fait l'objet d'un travail participatif important pendant quasiment 18 mois. Il intègre l'essentiel des grands enjeux bretons du XXIe siècle. Il exprime une ambition politique portée par la région pour la Bretagne d'ici 2040, sur 20 ans. Mais on a l'opposition des territoires, et pas que des territoires. Je crois que la Fédération des SCOT de Louis s'est aussi exprimée là-dessus, il en parlera tout à l'heure. Il y a eu des oppositions sur certains points importants qui n'ont pas été considérés. Par exemple, à une conférence territoriale d'action publique, tout le monde est tombé sur le poil de la région. Quand je dis tout le monde, c'est tous les territoires bretons qui sont représentés à cette instance, en contestant le zéro artificialisation des terres. Parce que ça revient à mettre sous cloche un certain nombre de territoires. Alors il y a eu un débat intéressant, les ruraux disant aux villes, voire aux métropoles, vous pouvez reconstruire la ville sur la ville parce que vous vous montez en hauteur, mais nous, chez nous, s'il n'y a plus d'artificialisation, on ne fait plus de lotissement, on n'en reçoit plus d'habitants, enfin tout s'arrête, quoi. Donc eh bien, malgré un débat très fort et une opposition quasi générale, la région a maintenu son objectif. Vous allez me dire, le gouvernement le promeut aussi, et c'est vrai qu'il faut être prudent. Mais entre être prudent, essayer de faire mieux et ne plus rien faire en artificialisant plus rien, il y a une marge. C'est un document très technocratique. Je peux vous donner un exemple qui, personnellement, m'a beaucoup amusé. J'ai vu qu'à propos des corridors écologiques, ils avaient une méthode de dilatation-érosion qui permettait de les identifier. Je vous passe l'explication, mais il y a un certain nombre de choses comme ça qui s'expliquent aussi par le fait qu'il y a des universitaires qui ont contribué à la rédaction. Résultat, c'est pas un document grand public, vous l'avez deviné, et c'est pas très lisible par tout le monde, même quand on y met du temps. Toutes les normes qui ont été édictées, elles ont été édictées pour répondre aux objectifs, mais le regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, et il est à craindre que certaines règles à l'usage se révèlent un peu compliquées à mettre en œuvre. Là aussi, oui, on parlera. Et puis, plus embêtant, c'est quand même une vision pour la Bretagne à 20 ans. Et au sein du Conseil régional, ça n'a pas fait consensus. On a eu la majorité qui l'a voté, mais seule. Le Rassemblement national qui s'est opposé. Et le reste, c'est-à-dire la droite et le centre, qui se sont abstenus, à mon avis, essentiellement pour des questions de méthode et pour les mêmes raisons que celles qui sont les raisons négatives qu'on expose là. Le président Meinery avait fait un apport qui a été repris d'ailleurs par l'opposition régionale, qui a été repris dans leurs avis par un certain nombre de territoires, dont nos voisins de Château-Giron. Et le président disait, bah, ou à moi qui veux le dire lui-même, comme il veut. Allez. J'y vais ? Bon. Le président proposait qu'il y ait un dialogue permanent entre la région et les EPCI, ces 59 EPCI qui fédèrent tous les territoires bretons communaux, avec une application différenciée des règles selon les situations des territoires bretons, c'est-à-dire que la région demande à l'État de la différenciation entre les régions pour l'application des législations nationales. Mais en l'occurrence, là, elle a refusé de faire la même chose au niveau des territoires qui pourtant ont des situations très très différenciées. Là aussi, pour être pragmatique et avoir une application du SRADET qui ne soit pas simplement un document normatif qui vient de la région et qui s'applique à tout le monde et sur lequel il surveille et contrôle, un peu comme fait l'État aujourd'hui, que ce soit bien appliqué par les territoires. Le président proposait que ce soit contractualisé entre régions et chaque territoire sur les objectifs et avec des indicateurs de suivi. Il y en a déjà dans le SRADET, il y a même des méta-indicateurs. Je ne sais pas trop ce que c'est, moi, mais bon, il y en a. Et là aussi, refus, évidemment, tout a été refusé. Et le président a aussi demandé que pour mettre en œuvre l'outil conventionnel, il y ait des fonds de concours régionaux qui soient octroyés pour pousser et inciter à atteindre les objectifs du SRADET, ce qui permettait d'éviter les appels à projets, parce que les dernières années, notre territoire a eu quand même quelques expériences malheureuses sur les appels à projets régionaux. Et enfin, il suggérait, afin qu'il y ait un dialogue permanent entre la région et les territoires, la création d'un observatoire régional, qu'on peut appeler DATAR, qu'on peut appeler comme vous voulez, qui aurait suivi l'évaluation des conventions d'objectifs, quitte parfois à reprendre certains territoires si les conventions n'avançaient pas, mal appliquées, etc. Eh bien, ça a été complètement refusé, cette méthodologie-là. Et on est resté à la méthodologie. J'ai un document qui s'appelle le SRADET et qui s'applique. Néanmoins, il faut émettre un avis. Le document sera soumis à enquête publique au premier semestre 2020. Le 28 novembre dernier, comme je vous le disais, il a été approuvé par la seule majorité du Conseil régional. Et il reviendra devant le Conseil régional une fois que l'enquête publique aura été, se sera passée avec des observations, enfin le processus classique en la matière. Dans le compte-rendu, vous aurez ça, c'est tous les sigles. Voilà, je laisse la parole à Louis qui souhaitait intervenir, lui, parce que vraiment, ça impacte beaucoup les documents d'urbanisme.
Oui, sauf que je n'avais pas trop prévu intervenir, j'aurais préparé un peu plus. Mais globalement, le SRADET, Pierre Brault l'a dit, c'est un document supra. Ça veut dire que ça va s'appliquer d'abord au SCOT et ensuite, au travers du SCOT, à tous nos PLU ou PLUI, pour ceux qu'on a. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les... On va avoir une mise en compatibilité, donc il va falloir mettre le SCOT en révision pour intégrer les règles du SRADET dans le SCOT. Et je crois qu'on a, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 5 ans. Je crois que c'est 5 ans, comme les PLU pour le SCOT. Partant de là, le SRADET, on en cause depuis un certain temps. Et on a, au niveau de l'inter-SCOT, il y a 7 SCOT en Ille-et-Vilaine. Et on a créé un inter-SCOT il y a 6-7 ans. On a pas mal progressé, l'objectif étant d'harmoniser nos politiques. Ça ne veut pas dire les mettre à égalité, parce que Pierre Brault l'a dit, les territoires sont différents en Bretagne, mais aussi en Ille-et-Vilaine. Donc on essaie quand même d'avoir des règles un peu plus harmonieuses pour ne pas se créer de concurrence, entre autres dans les franges de nos SCOT. Donc au niveau de l'inter-SCOT, on a rencontré la région deux fois, en présence de la présidente et des services. Et la deuxième fois, c'était avec tout le staff, puisqu'il y avait les DGS, il y avait tous les services. La première fois, on leur a dit que c'était une fin de non-recevoir pure et dure, que s'ils continuaient comme ça, nous, on n'aurait pas pu intégrer ça dans nos SCOT parce que c'était totalement irréaliste et inapplicable. Et la deuxième fois, ils sont revenus, donc ils ont refait un document, on l'a remis sur le tapis, nous, on l'a réétudié à nouveau dans nos services, et puis on a refait une réunion à la région, d'ailleurs. Et là, il y a eu un gros débat, parce qu'ils avaient effectivement évolué un peu en termes... Alors moi, je parle plutôt en termes d'urbanisme et de consommation de foncier, parce que c'est là-dessus qu'on s'est attaché à regarder quelles étaient les conséquences. Et le zéro artificialisation, au début, c'était zéro artificialisation. La deuxième fois, c'était zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi en termes... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut consommer... On pourra encore continuer à consommer du foncier en extension des zones urbaines actuelles, mais il faudra compenser. Par exemple, vous faites 20 logements en extension, il faudrait raser plusieurs maisons et puis faire un immeuble pour faire une trentaine de logements pour économiser du foncier. Donc là, on a ferraillé pendant toute une matinée avec les services, y compris le président du SCOT du Pays de Rennes, qui a fait remarquer à sa collègue, puisqu'il est aussi vice-président de la région, dans des termes mesurés, parce que ce sont des politiques, et ils étaient, comment dire, en famille, que c'était inapplicable en l'état, la deuxième version, que c'était inapplicable au travers des SCOT en matière d'urbanisme. Ils n'ont pas lâché un pouce au cours de cette réunion, ce qui est dommage. Et puis, on l'a dit, nous, autre Scott, de façon moins politique, parfois un peu virulente. Et au final, le document qu'on a aujourd'hui en étude au niveau de la consultation des personnes publiques associées, c'est un document qui a été légèrement amendé, mais qui reprend toujours les grandes lignes. Alors, ça, c'était la présentation générale. Nous, on a commencé à regarder au niveau du syndicat, avec Fougère, parce que, bon, en ce moment, on travaille beaucoup avec Fougère au niveau de deux ou trois dossiers. Nos deux spécialistes, nos deux techniciens, les deux responsables de Scott, Christelle Follière chez nous et David Soreau à Fougère, ont passé une matinée ou une après-midi, je ne sais plus trop, à regarder les différentes règles en matière d'urbanisme et de consommation de foncier. Et ce que me disait Christelle, pas plus tard que ce matin au téléphone, on en a reparlé, c'est un document, et Pierre Brault l'a dit, très difficile à lire, qui est sujet à interprétation, parce que même eux, les deux techniciens, lorsqu'ils lisaient une règle, ils n'avaient pas, la même interprétation. Alors c'est vous dire si on va s'amuser après. Parce que moi je peux vous foutre ma main au feu que les services de l'État auront forcément une interprétation très restrictive et qu'on va se bagarrer en permanence pour arriver à faire quelque chose au niveau de l'urbanisme et à tout niveau. Le zéro artificialisation net pour 2040, c'est absolument irréaliste. Ou alors, on va créer, vous en avez parlé, Pierre Després en a parlé, on va créer un manque de logement tel qu'on va organiser, on va avoir une crise du logement sans précédent, et là, on s'en mordra tous les doigts. Parce que ça va forcément raréfier le foncier, autant dans les villes, les grosses villes, la métropole par exemple, on peut reconstruire, comme tu le disais Pierre, la ville sur la ville, encore que, j'ai vu il n'y a pas longtemps, et j'avais noté parce que ça m'intéressait, et d'ailleurs on peut le retrouver dans le PLUI de Rennes, j'ai vu le président de Rennes Métropole qui est intervenu lors d'un journal télévisé, tout début d'année, pour nous expliquer la bouche en cœur que Rennes Métropole était vertueux en matière de consommation de foncier, cité en exemple dans toute la France, et puis il ajoutait après qu'ils avaient mis en place un PLUI, donc approuvé leur PLUI, pour 2035, donc 15 ans, avec un objectif de 90 000 habitants nouveaux sur 15 ans, et donc 65 000 logements à produire. Donc vous imaginez qu'on ne peut pas tous les produire sur Rennes, c'est évident. Et ils ne consommaient que 1 763 hectares sur la métropole, donc sur les 43 communes de Rennes Métropole. Donc voilà. Donc même Rennes Métropole est parfaitement incapable, totalement incapable, d'appliquer les règles du SRADET. Parce que autant il peut raser des quartiers sur la ville de Rennes, mais moi je connais une commune que j'ai beaucoup à cœur, puisque c'est celle de ma femme, ça s'appelle Chavagne. Ils ne vont pas aller raser des quartiers de Chavagne pour reconstruire des immeubles. C'est absolument impossible. Donc c'est quelque chose qui est totalement irréaliste. Je termine. Alors, nous, ce qu'on... Je ne sais pas comment on va faire au niveau du syndicat d'urbanisme. Il faudrait qu'il y ait une reformulation pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus synthétique déjà, pour mieux comprendre. Il faudrait qu'il y ait une territorialisation, Pierre l'a dit, Pierre Brault et Pierre Ménry l'a écrit, des règles. Moi, j'avais dit qu'on aurait pu avoir un SRADET à minima, c'est-à-dire qui fixe des règles minimum pour tout le monde, et après, les territoires, on les adapte. Bon, on n'est pas parti là-dessus. Les 38 objectifs, c'est pas idiot, s'ils étaient très clairs. Or, ce n'est pas clair. Alors, en conclusion de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous l'ai dit, c'est un machin supra qu'on va devoir appliquer. Les services de l'État s'en servent déjà, il faut le savoir. J'étais hier soir au vœu du sous-préfet et je suis tombé avec deux agents de la DDTM et on a eu un gros débat sur mon PLU, entre autres, parce qu'on n'est pas d'accord. Et je leur ai dit que je ne céderai jamais, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le taux de progression démographique de la commune que j'ai fixé, qu'on a fixé. Bon, donc, et le gars de l'État me dit, en plus, il y a le SRADET maintenant. Alors, je dis, commencez pas à m'énerver avec ça, parce que je dis, là, on va forcément se fâcher. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir taper du poing sur la table et de dire, ça suffit, parce qu'autrement, nous, c'est un vrai débat et c'est un vrai enjeu. On est en train de mettre sous cloche, comme disait Pierre Brault, nos territoires. Et il faut savoir que nos communes, on ne se développera plus. J'en ai terminé. Donc, une application, ouais. Si on ajoute à ça, alors si quand même, au niveau national, faut savoir que l'État en met une couche. L'État a demandé à le gouvernement, a mis en place une commission nationale qui regroupe des élus, mais qui regroupe aussi des tas d'associations, avec comme objectif de donner des règles pour le président de la République, et c'était pour décembre, mais apparemment ça n'a pas marché, en termes de consommation de foncier, avec l'objectif, là aussi, du zéro consommation. Donc, la commission travaille, on a été associé au niveau de la Fédescot, par erreur, on n'aurait pas dû y être, ils se sont mordus les doigts après, parce qu'il n'y avait personne d'autre d'élus à la première réunion que les représentants de la Fédescot. Mais comme on avait été invité une fois, on est retourné après. Donc on refait un point dans 8 jours, il y a un conseil d'administration. On va refaire un point pour savoir où en est rendue cette sacrée commission. Parce que l'État aussi essaye de pousser fort. Et donc si l'État pousse, les régions sont effectivement obligées de le mettre en place. Et dans toutes les régions, puisque bon, à la Fédescot, il y a des représentants de Scott de toute la France, dans toutes les régions, ils ont les mêmes problématiques avec les SRADET. Ils ne savent pas comment prendre ça et comment s'en servir. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place et qui demain va nous contraindre au niveau de l'habitat, parce qu'on le voit bien, ils veulent réduire et il faut réduire la consommation de foncier. Et moi je vois dans ma commune, pourtant autrefois on faisait des lotissements paysagers, on était à 2 500 m². Moi quand je rappelle ça aux gens au service de l'État, ils me disent c'est pas possible, quoi. Mais c'était la DDE qui nous proposait de faire des grands terrains pour attirer des clients dans nos communes. 2 500 m² par terrain, on faisait 4 logements par hectare. Aujourd'hui, moi, dans mon PLU, je vais être à 17, 18, et on me demande d'aller à 20. Bon, donc voilà. Donc il faut réduire, mais il faut réduire de façon mesurée. Et c'est pas parce qu'on continuera à consommer un petit peu de foncier, il faut réduire, qu'on va mettre en péril l'agriculture. Les deux, sont compatibles. Donc toutes les régions ont la même problématique avec les SRADET. Si on ajoute à ça, parce que je vais quand même vous agacer un peu, qu'aujourd'hui, les changements de destination, et là Pierre Ménry va bondir, les bâtiments de caractère, anciennes granges, anciennes étables, en pierre, dans les exploitations qui n'ont plus d'activité, c'est-à-dire où il n'y a plus de siège d'exploitation et plus d'activité agricole, on peut mettre dans nos PLU un changement de destination en repérant ces bâtiments. Alors, un petit conseil, il y a une commune qui s'est fait retoquer récemment, il y a quelqu'un qui a acheté une maison, d'ancienne maison d'habitation dans la ferme, de ferme, et il l'a rénovée, il a voulu l'agrandir dans la grange à côté. Il n'aurait pas dû mettre de fenêtre, il aurait dû le faire qu'après. Déclaration préalable, et là, l'ADP a été retoquée au contrôle de légalité, parce que la commune n'avait pas repéré sur son PLU ce sacré machin. Donc, moi, je dis aujourd'hui, et j'en ai parlé avec les services de l'État, conseille aux communes qui sont en cours de révision de mettre un paragraphe dans le règlement pour autoriser les extensions des habitations existantes sur des bâtiments dans le cadre d'un changement de destination, sans être obligé de les repérer parce qu'on ne sait pas où ça va agrandir. Par contre, les bâtiments entiers, il faut les repérer. Aujourd'hui, enfin non, en janvier, séance de janvier de la CDPNAF, il y avait un dossier qui passait de changement de destination, très beau bâtiment dans une ancienne ferme. Ça ne consommait pas. Alors, avis défavorable, le rapporteur proposait un avis défavorable. C'est-à-dire que, comme c'est un avis conforme, le maire, s'il y a un avis défavorable, ne peut pas signer le permis de construire. Donc, le maire doit se conformer à l'avis de la CDPNAF. Et là, avis défavorable. Donc, moi, je pose 3 questions. Je n'avais pas prévu y aller à cette séance, j'avais donné mon pouvoir. On m'alerte la veille. Donc j'y vais, je pose 3 questions. 1, est-ce que le bâtiment est repéré sur le PLU? On me répond oui. 2, est-ce que le bâtiment est situé à plus de 100 mètres de toute activité agricole? On me répond oui. Et 3, est-ce que le bâtiment consomme du foncier? On me répond non, puisque c'était dans la cour de la ferme. Et ben, je dis, pourquoi vous proposez un avis défavorable? Et ben, parce que ça peut gêner l'agriculture. On a ferraillé pendant une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, on a obtenu la majorité qui a voté pour le changement de destination. Si ce dossier-là était passé, c'était fini. Après, la CDPNAF, tous les dossiers auraient été refusés. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Il va falloir montrer les dents, parce qu'autrement, on ne pourra plus développer nos communes. On va se trouver enfermés avec ce SRADET et avec ces nouvelles règles qui nous tombent de l'État et des services de l'État et des fameuses commissions genre CDPNAF.
Les objectifs de la région et du gouvernement, il faut les atteindre. Et nous avons une responsabilité. Simplement, c'est la méthode qui diffère. La méthode verticale, centralisée d'en haut, qui ne vous laisse pas de liberté d'adaptation, je crois qu'elle a échoué partout en France. Et moi, j'ai trois éléments qui me stupéfaient, et je le rappelle parfois, et qui fait sourire nos voisins européens. Nous sommes le pays qui avons le plus d'atouts en Europe. Je ne vais pas le dire le pourquoi, mais c'est les observateurs. Eh bien, quand vous voyez nos résultats en agriculture, nous étions le pays le plus agricole de l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, notre balance commerciale agricole, pour la première année, va être déficitaire vis-à-vis de l'Europe. Parce qu'on impose de multiples contraintes alors qu'on laisse une initiative, une responsabilité aux autres. La balance commerciale, 50 milliards d'euros de déficit. L'industrie, encore dans les dernières années, on a perdu 500 000 emplois industriels et nos voisins allemands en ont gagné 120 000. Et tout le monde dit que la méthode centralisée, bureaucratique française est la cause de ces difficultés. Toutes les études économiques le montrent. Et là, autant les objectifs, et moi je suis d'accord pour qu'on se batte, mais laissez-nous, faites confiance à l'initiative et à la responsabilité des citoyens à la base. Si demain nous avons des fonctionnaires plus nombreux qui nous disent voilà ce qu'il faut faire, si on a des appels à projets multiples et qu'on ne sait pas qui décide au final, on l'a vu dans les derniers, il y avait deux projets remarquables, Balazé et Trel, on n'a pas pu les financer parce qu'on ne sait pas qui décide. Voilà la raison pour laquelle moi je dis les objectifs fixés par la région, nous les applaudissons, mais je dis que nous ferons mieux, plus efficacement, si on nous laisse la liberté d'initiative et la responsabilité. Et là, on reprend les vieilles méthodes françaises centralisatrices de l'État, des structures, de la région et de plus en plus de gens verticaux qui nous disent ce qu'il faut faire. Donc voilà un petit peu le débat. Alors il faut être très clair. Les objectifs, il faut les atteindre. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit critiqué et on peut mieux les atteindre si on a l'initiative et la responsabilité qui nous étaient. Dans un cas, par exemple, dans une commune, on peut dire, écoutez, il faut maintenir les hameaux parce que c'est la qualité des personnes qui y habitent et donc dernier, une certaine souplesse. Mais en échange, on peut prendre d'autres responsabilités. Voilà le débat de fond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux choix. S'opposer ou dire que autant nous sommes d'accord sur les objectifs, autant la méthode imposée d'en haut, elle a montré ses limites en France. Et donc, expérimentons une autre méthode et on aura de meilleurs résultats. Alors, faut-il s'y opposer ou dire que nous sommes très réservés sur la méthode ? À votre avis ? Louis, si tu avais un choix à faire entre les deux.
Moi, clairement, au niveau du syndicat d'urbanisme, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, moi, je suis en train de le lire aussi. Hein. Je suis un peu moins avancé que Pierre Brault, mais je n'avais pas l'échéance de ce soir, parce que je n'ai pas prévu en parler. mais je suis en train de le... J'ai le paquet, là, sur mon bureau. Nous, au niveau du syndicat, moi, on va faire une analyse précise des objectifs qui nous intéressent. Mais moi, je pense que je demanderais à ce qu'on donne un avis défavorable en l'état du document. Parce que si on commence à dire, écoutez, le document, il y a des bons objectifs, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on se voulait, mais on donne un avis favorable, mais bon, voilà, ça n'aura aucune portée. Ou on est favorable ou on est défavorable. Donc, moi, très clairement, je suis défavorable au projet aujourd'hui. On ne peut pas l'appliquer. Comment ? Tel que présenté, oui, voilà, il faut l'argumenter. Hein.
Tel que présenté et telle la méthode qui n'est pas la plus efficace pour aboutir à des résultats. Voilà. Donc, oui, Pierre, micro.
Oui, moi j'ai envie de m'amuser un petit peu. Je suis étonné.
N'hésite pas, Pierre, ton PLU n'est pas fini.
Ah oui, mais ça s'est très bien passé, Louis, je vais te raconter. Bon, toujours est-il, je suis étonné de cette propension en France à avoir, je vais utiliser le terme personne pour rester poli, qui, à haut niveau, nous disent exactement comment on doit faire nos réunions, comment on doit préparer la salle de réunion, etc. qui descendent dans des détails. Ces gens qui nous gouvernent ont trop de temps et sont trop nombreux. Et je trouve inadmissible que l'on nous donne un document d'objectif qui fasse 250 pages. Je prendrai comme exemple la bataille de Midway. Ça vous dit quelque chose ? Ça s'est passé pendant la guerre de 1945, et c'est une bataille dans laquelle les Japonais ont perdu 4 porte-avions. Savez-vous que l'instruction du président de la République au général qui a piloté ce champ de bataille ne faisait pas une page entière. C'est pourquoi je rejoins complètement ce que dit Pierre, notre président, c'est que qu'on nous donne les grands objectifs, et je pense que personnellement, je serais d'accord, je ne les connais pas, hein, mais pourquoi pas dire oui aux objectifs, mais un non catégorique, c'est-à-dire que si on dit qu'on est réservé, on va nous refiler le suppositoire. Excusez-moi, mais au moins vous retiendrez. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on dise oui sur les objectifs et non sur la méthode. Parce que cette subsidiarité est essentielle. Et je vais, pour vous amuser un peu, avoir, alors que j'étais à Rennes, un de mes directeurs rentrait d'une réunion à la direction régionale. Le chef de centre lui dit, alors, cette réunion, il y avait des choses importantes. Oh, il n'y avait rien d'important. Bon, tu te fous de ma gueule quand même. T'es resté une demi-journée là-bas. Oh oui, mais il y avait tellement de choses importantes qu'en fait, il n'y a rien d'important. C'est ce qui va arriver avec un document comme ça. Comment voulez-vous que sur le terrain, on puisse appliquer 250 pages de règles, de normes, etc. Et je terminerai en disant qu'un président de syndicat d'électrification rurale de la Mayenne m'avait dit, vous savez, la seule loi qui existe, c'est de ne pas se faire prendre. C'est à ça qu'on va arriver. Et je pense qu'il faut qu'on dise oui aux objectifs, mais surtout non sur la méthode. Excusez-moi si je vous amuse, mais au moins il y a des principes et de la philosophie d'action.
Alors, non sur la méthode, et nous proposons une autre méthode basée sur l'initiative, la responsabilité et le contrôle par la région des objectifs qui nous sont fixés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ? Joseph, tu veux dire quelque chose ? Vas-y.
Compréhensif, quoi. Moi, je ne l'ai pas lu. J'ai voulu l'ouvrir, puis j'ai dit, c'est bon. Ouais. Non, il faut arrêter.
Absolument. Et puis, on ne va pas appliquer à Rennes et à Fougères les mêmes règles.
Alors, oui. Une anecdote, quand même. Une anecdote. Au cours de nos discussions avec la région, la vice-présidente nous dit, oui, mais si on ne met pas des règles... Il y en a toujours qui ne les observeront pas. Et elle nous dit, dans mon territoire, elle est à l'autre bout de la Bretagne, elle dit, on a deux communes. Une commune qui est très bien placée, qui développe l'habitat à tour de bras. Et à côté, il y a une commune qui a moins de moyens, ben, elle ne développe rien du tout. Alors là, je la regarde, je dis, écoutez, madame la vice-présidente, je suis désolé, mais dans ces cas-là, ça veut dire que soit le SCOT n'est pas bon, que le PLU n'est pas bon, et je regarde le directeur départemental qui était là, et je lui dis, ça veut dire aussi que les services de l'État ne font pas leur boulot. Parce que s'il y a un SCOT et s'il y a des PLU, parce qu'elle nous dit que les PLU ne sont pas mis en conformité, ben, je dis, les PLU doivent être mis en conformité au bout d'un certain nombre d'années, et si ce n'est pas fait, c'est aux services de l'État de faire leur boulot. Donc voilà, donc, ils ont fixé une règle, effectivement, parce qu'il y a des mauvais élèves sur la Bretagne, et parce qu'il y a quelques mauvais élèves, ils fixent des règles unilatérales pour tout le monde. Et ça ne peut pas marcher.
Bien, alors, chers collègues, il va falloir voter. Nous sommes d'accord sur les objectifs. La méthode pour atteindre ces objectifs ne nous paraît pas la meilleure. Donc, nous nous opposons. Mais troisième élément, nous sommes d'accord pour être jugés tous les 2 ou 3 ans, y compris dans l'enveloppe financière, en fonction des résultats globaux que nous obtiendrons. Est-ce qu'on peut aller sur cette... Elle est positive, la méthode. Mais la méthode... Bon, voilà. Donc, ceux qui sont pour s'opposer, lève la main. Il y a deux choix. Le choix... de s'opposer sur la méthode, et on redit ce que tu as dit, oui aux objectifs, mais la méthode centralisée, bureaucratique, ne nous apparaît pas la bonne méthode. Et nous proposons une méthode où on prend des initiatives et des responsabilités nous-mêmes et nous acceptons d'être jugés. Ça, c'est un premier vote. Le deuxième vote, c'est de dire nous sommes réservés. Voilà. Comment ? C'est les deux choix.
On nous demande un vote sur le document qui nous a été transmis. Donc, pour moi, Pour moi, en l'état, le document, on ne peut pas être favorable parce qu'il est beaucoup trop illisible, beaucoup trop contraignant, et il n'est pas adapté aux territoires ruraux en particulier. Donc, il faut bien voter sur le document. Il faut voter sur le document. Après qu'on la sortisse de propositions, ça, faut le faire. Mais il faut bien voter sur le document actuel. C'est une consultation de personnes publiques associées. C'est favorable ou défavorable ?
Moi, je vais vous donner mon avis tout simple, très clair. Moi, ça va être non sur le fond et sur la forme.
Je préfère la formulation parce que si on dit non sur le fond, attention, on a quand même face au changement climatique des responsabilités. Et
Pierre, on peut être jésuite.
Ah non.
Et suivre un peu ce que dit Louis Ménager.
Oui.
On a un avis défavorable, général, défavorable. On pourrait, et après, une phrase où on atténue en disant que on pourrait s'accorder sur les objectifs, mais on refuse cette façon d'être trop direct et nous imposer tout. C'est-à-dire, un avis défavorable, comme le propose Louis, sur l'ensemble du document. On pourrait s'accorder pour être sur les objectifs, mais le chemin pour atteindre ces objectifs est trop directif et nous est trop imposé, pas assez de subsidiarité, etc. Je pense que c'est ce qu'il faut.
Pierre Brault a bien compris le sens et il te proposera quelque chose.
Juste pour compléter, c'est vrai que là, on se focalise beaucoup sur l'urbanisme, mais le Sraddet, c'est pas que l'urbanisme non plus.
Non.
Je l'ai chargé vite rapidement, il y a objectif 16, améliorer collectivement l'offre de transport public. On peut pas dire qu'on soit contre ça. Même pour des communes rurales, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc je pense que l'avis défavorable en l'état, parce que sur l'urbanisme, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Mais il faut quand même, je pense, en effet, comme le dit le Président, il y a des objectifs qui sont positifs et sur lesquels on doit aller et sur lesquels on partage, et on a déjà eu beaucoup d'échanges, sur des objectifs. Mieux intégrer la mobilité dans les projets d'aménagement pour limiter les déplacements contraints, objectif 15. Enfin, je veux dire, on est d'accord avec ça. Donc on ne peut pas être contre tout. Je pense qu'en effet,
Absolument.
Il faut mettre un avis défavorable en l'état actuel du document, mais que les objectifs, à mon avis, restent à travailler et amèneront sans doute des financements derrière. Donc, il faut
dans la proposition que nous avons faite, c'est d'en ajouter un, avoir une datar bretonne qui incite à une meilleure répartition des activités. Il n'est pas dans le document.
L'autre solution, mais il y a madame qui veut intervenir.
Oui,
mais
dans l'état actuel du document.
D'accord.
Il peut y avoir une évolution.
Je vois qu'il a tout écrit ou tout entendu.
Alors,
ça me semble important de le noter, ça.
Oui.
L'autre solution, c'est de regarder, il y en a 38, hein, mais il faut passer une après-midi là-dessus, de regarder objectif par objectif, savoir ceux qu'on accepte parce qu'ils sont bien, et ceux qu'on refuse catégoriquement. Moi, c'est ce que j'ai fait au syndicat dans une première analyse, et je pense que c'est ce qu'on fera. Mais nous, on n'analyse que la partie urbanisme. Vitré communauté, il y a les 38. Hein. Donc, il faut passer un peu de temps.
Pierre Brault, vous avez une proposition autre ? Non, mais celle résumée par Louis et par Pierre Billot apparaît simple, à condition, comme vient de le dire Teddy, qu'on montre bien dans la deuxième partie que les objectifs, nous pouvons les atteindre par une autre méthode qui n'est pas une méthode verticale centralisée. Voilà.
Non, donc c'est un avis défavorable sur le document en l'état, même si les objectifs sont partagés.
Voilà. Point. Voilà. Et que nous proposons une autre méthode, moins centralisatrice. Sur cette synthèse, ceux qui sont favorables à cette synthèse veulent bien lever la main. ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Eh bien, l'unanimité, l'orientation est prise, c'est clair. Contre. Jean-Pierre. Oh, désolé.
Oui. Moi, je pense que dans la mesure où on devait avoir un vote sur un point comme ça important, ça se prépare sérieusement. La personne, on ne sait pas trop pourquoi et pour qui on vote. Moi, ça ne me semble pas préparé assez sérieusement pour faire un vote comme ça.
Le vote a lieu. Oui. Simplement, pour prendre en compte ton observation, nous détaillerons lors du prochain débat budgétaire et je demande à chacun de lire les 287 pages.
Sachant que je partage de la complexité et puis ce qui nous irrite sur ce document depuis longue date.
Oui, oui, oui. On est d'accord ? Eh bien, sur ça, bonne soirée.
Encore, attends.
Et bonne nuit.
Président, encore. Juste une information.